CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Et bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous dans ce mag du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, on vous parlera projet pédagogique au long cours. 3 ans que le pays d'arrêt d'histoire travaille avec l'école de Molière. On vous parlera donc du carnet d'explorateurs d'il y a 2 ans, de balades comptées de l'an dernier, de la thématique de cette année, commerce et économie. Ce sera pour la deuxième partie de ce mag du pays Midi-Quercy. Mais avant ça, on fait le détour par Montricou et Bruniquel à propos d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est en cours. On parle urbanisme, architecture et patrimoine avec notamment le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy. Léa Gérardin-Macario y est archéologue du bâti. Bonjour Léa.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est qu'un plan de sauvegarde ?
Alors, un plan de sauvegarde des mises en valeur, c'est un document d'urbanisme qui prend de nombreuses années à mettre au point. Et l'objectif, ça va être de trouver des solutions, un ensemble de règles pour protéger et mettre en valeur une architecture locale, donc à Montricou et Bruniquel, et de s'adapter vraiment au cas par cas du patrimoine local.
Quand vous dites protéger, on entend contraindre hein, pour les propriétaires qui vont vouloir faire des travaux chez eux.
Alors, il y a en effet une partie de ce document, donc c'est vraiment un document d'urbanisme, donc il y a une partie qui est contraignante pour les propriétaires, mais comme je le disais, ça va vraiment être du cas par cas. Chaque maison, en fait, nous, le service inventaire, on accompagne en fait le bureau d'études qui sont des architectes du patrimoine et architectes classique, on va les accompagner et on va aller voir chaque maison une par une dans ces deux villages, rencontrer du coup aussi les propriétaires et on va essayer d'aller à chaque parcelle déterminer ce qui fait vraiment patrimoine à protéger et ce qui est moins à surveiller. Et donc parfois il va y avoir des parcelles où éventuellement il n'y aura vraiment pas grand chose à surveiller, voire pas du tout, et des parcelles où là ça va être ça va pas être la majorité mais quand même certaines, où on va mettre une petite étiquette ou quelque chose qui va dire par exemple cette cheminée là vous pouvez pas la détruire mais vous pouvez refaire vos plâtres, refaire votre isolation, vous pouvez refaire vos fenêtres, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y aura un ensemble de règles adaptées sur éventuellement des matériaux de préférentiellement à choisir, mais les gens pourront faire leurs travaux chez eux. Le but, c'est pas du tout de les empêcher de vivre dans leur maison. C'est au contraire, en fait, d'aller trouver un moyen que, à la fois, les gens puissent rénover leur maison, vivre dedans, et que la maison et le village en entier gardent une qualité architecturale et que des éléments patrimoniaux puissent être transmis aux générations futures aussi.
Autour du paysage, donc ça fait penser au travail que mènent les architectes de bâtiments de France qui vont déterminer à quel moment on peut repeindre nos volets plutôt de ce ton de vert et non pas de celui-là, en peut-être un petit peu moins contraignant. Et puis concernant en plus le patrimoine en lui-même et sa dégradation.
Donc en effet, en fait, ce plan de sauvegarde et mise en valeur, en réalité, il est suivi par l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France. Et en fait, ça va être pour lui un moyen, justement, plutôt que de, à chaque fois que les gens vont faire leur demande de travaux, que les propriétaires vont faire leur demande de travaux, plutôt que l'ABF doive se creuser la tête à trouver donner telle ou telle règle, là, il aura une feuille de route qui dira, cette maison, on peut il y a ça à surveiller ou pas.
C'est un boulot titanesque là, de visiter chacune des maisons de Bruniquel et de Montricou en disant attention là c'est la cheminée, attention cet escalier, attention cette fenêtre ou ce vitrail, c'est
oui, exactement. Énorme. Alors c'est pour ça que nous service inventaire on accompagne ce travail parce que c'est l'occasion pour nous donc de travailler avec les architectes pour leur faire part nous de notre savoir puisqu'on connaît déjà quand même assez bien ces deux villages, même si on les connaît pas parfaitement, mais on les connaît déjà assez bien. Donc on leur transmet nous notre savoir, les endroits où on sait déjà les choses à surveiller et à mettre en valeur. Et ensuite, en même temps, en contrepartie, comme on va toquer chez tout le monde et qu'on rentre chez tout le monde, ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas du tout et de pouvoir, voilà, ben, nous, travailler dessus, les étudier, à minima, faire quelques photos et donc parfois faire des études un petit peu plus poussées et éventuellement, pour certains propriétaires, les accompagner eux aussi ben, quand ils veulent en savoir plus sur leur maison, mais aussi quand ils ont des questions, ben, comment restaurer cette cheminée en brique. Là, j'ai une peinture murale ancienne du XVIIe siècle chez moi. Alors, ça peut paraître des préoccupations incroyables, mais en fait, dans des villages comme Montricou ou Bruniquel, c'est des choses qui arrivent et qui arrivent même parfois souvent de se retrouver avec dans son grenier ou quand on enlève un placo. Paf, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Un an du pain du XVIIe siècle. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien justement, nous, on va pouvoir les accompagner un petit peu, leur donner quelques pistes, soit s'ils veulent le faire étudier, le faire restaurer, ou au contraire, ils veulent pas le garder visible, on va leur proposer quelques solutions pour éventuellement le masquer sans porter atteinte au patrimoine non plus. Donc voilà, essayer de trouver des solutions dans chaque maison.
Bruniquel et Montricou n'ont pas été choisis au hasard hein, donc pour ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, puisque ce sont deux villages médiévaux qui comportent énormément de patrimoine à sauvegarder. Alors, c'est une étude qui est en cours, là, autour du patrimoine bâti, pour donc édifier ces règles de protection, on l'a dit, au cas par cas, autour donc de la rénovation des maisons de Bruniquel et Montricou. On en est où, là, concrètement ? Ça va prendre un temps fou ?
Oui, ça va prendre du temps. Donc voilà, il y a toutes les parties très administratives qui ont été en grande partie faites, puisque c'est c'est mis en œuvre par l'État, ces documents. Donc là, on est passé dans la partie études. Donc on est sur le terrain avec les architectes, on va de maison en maison. Donc on étudie vraiment ce patrimoine-là qui va nous permettre ensuite, dans un deuxième temps, d'édicter les règles. Alors ces règles, on ne va pas les édicter, c'est pas nous, service inventaire, ça va être les architectes qui vont travailler avec l'architecte des bâtiments de France. Ils vont aussi travailler avec une commission locale qui sont des habitants. Un ensemble d'habitants des villages. Il va y avoir aussi des consultations avec tous les habitants des deux villages. Donc tout ça va être fait pas à pas, à chaque fois en invitant les habitants à prendre part à la création des règles communes et particulières. Voilà. Et après, il faut savoir que nous, toutes ces études à la parcelle, tout ce qu'on visite chez les gens, ça reste confidentiel. Ça sera des documents d'urbanisme qui seront vus exclusivement par les agents qui s'occupent de ça et notifiés aux propriétaires, mais ce sera pas visible par tout le monde. Voilà.
Avant qu'on rentre en studio, Léa, vous avez parlé de ce plan de sauvegarde et de mise en valeur comme la propriété comme bien commun. C'est vraiment la préservation d'un paysage hein, qui est proposé là.
Oui, voilà, l'idée c'est en fait en édifiant des règles comme ça pour essayer de garder une qualité architecturale et préserver un patrimoine, c'est d'aller au-delà, de se dire que bon, certes on a une maison, elle est à nous, c'est chez nous, mais elle fait partie d'un ensemble, un village où on vit tous ensemble et où ça va être cette qualité d'architecture et le fait de pouvoir l'améliorer qui va faire qu'on a un bien commun qui nous est à tous et une qualité de vie à tous dans ces villages. Et je dis nous parce que moi j'habite aussi dans ces villages-là et donc ça me touche aussi de se dire qu'on va tous ensemble faire en sorte que nos villages soient agréables à vivre et qu'ils soient aussi transmis à nos enfants et qui restent agréables pour encore des générations.
Les habitants de Brunkel, de Montricou, peuvent s'attendre à venir voir toquer chez eux. Donc, les architectes, vous, au service inventaire du patrimoine du PMI d'Icercy, avoir quelques réunions, fleurir. On est vraiment sur l'étude. Hein, c'est vraiment du pas à pas. Ça va prendre quelques années. Et peut-être que ça voudrait le coup d'élargir ce plan de sauvegarde et de mise en valeur sur d'autres villages. Je pense villages médiévaux tels que Saint-Antonin ou même Caylus.
Oui, absolument. C'est déjà à l'étude. Hein. Ces villes ont déjà été moteurs là-dedans. Et elles continuent à étudier la question. Après, c'est des plus grosses villes, donc ça va mettre un petit peu plus de temps à ce que les choses avancent. Mais en effet, ce serait un avenir très prometteur pour ces deux villes-là aussi.
Patrimoine, architecture, sauvegarde et mise en valeur avec donc ce nouveau document d'urbanisme qui est en cours du côté de Montricou et de Brunkel. Plus d'infos à venir dans les boîtes aux lettres des Montricou
nés
et des Brunkel...
Bruniquelet.
On les salue. Merci beaucoup Léa Gérardin Macario, archéologue du bâti pour le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy.
Merci à vous, à bientôt.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Et dans la deuxième partie de ce MAG du Pays Midi-Quercy, on vous parle projet pédagogique. On fait le détour par Molière pour vous expliquer tout ce qui s'est déroulé les trois dernières années. C'est l'exemple qu'on va prendre pour parler de tout ce qui est mis en place dans le cadre du Pays d'art et d'histoire, dont Aude Caverzan est chargée de programmation. Bonjour Aude.
Bonjour Lisa.
On sait régulièrement au téléphone ou en studio dans ce MAG du Pays Midi-Quercy pour parler des partenariats que vous nouez, de tout ce que vous allez proposer aux habitants en termes d'animation culturelle, de balades, de visites guidées. Là, c'est autre chose, projet pédagogique donc, et c'est pour tous les âges.
Oui, en effet, le Pays d'art et d'histoire ne fait pas qu'un programme d'animation et de manifestation culturelle. On fait aussi des projets pédagogiques auprès des écoles, des collèges et des lycées. Alors, ponctuel, ça peut, mais on privilégie des projets sur le long terme. En fait, c'est venu d'une demande de la commune de Molière, une sollicitation qui avait un projet de réaménager le centre-bourg, parce que le Pays d'art et d'histoire est quand même très lié à tous ces projets de réaménagement urbain, remaniements architecturaux, etc. Donc on aime beaucoup en profiter pour travailler sur le patrimoine et sur l'architecture. Donc la commune a eu ce projet-là qui n'est pas encore concrétisé et nous on s'est dit que pour venir en appui en tant que pays d'art et d'histoire, on pouvait travailler avec l'école de Molière, parce qu'il y a une école primaire, on pouvait en fait étudier avec eux le patrimoine de leur village. On les sensibilise en fait, on les fait prendre conscience de l'importance de leur village et donc ça permet peut-être dans le futur, qui prennent une part plus active dans les réflexions de réaménagement que porte la mairie autour du centre-bourg. Ça permet, voilà, ils auront les clés en fait pour pouvoir participer si la mairie fait participer ses habitants. Donc on a fait un projet comme ça sur 3 ans. La première année, c'était il y a 2 ans maintenant, on s'est attaché plutôt à travailler le patrimoine bâti pur et dur, j'ai envie de dire. Et on a pour cela réalisé un livret-jeu qu'on appelle les livrets explorateurs. C'est une édition spécifique du Pays d'Arrêt d'Histoire. Et on l'a fait ensemble, ce livret-jeu. Donc, ça a commencé par une visite du village avec une guide conférencière qui leur a fait découvrir des monuments emblématiques de Molière. Je pense, par exemple, à côté de la mairie, il y a un grand bâtiment en briques rouges que les locaux appellent la pyramide parce qu'à l'intérieur, il y a une verrière, on va dire, en forme de pyramide qui s'inspire de la pyramide du Louvre, d'où le nom, qui couvre la cour intérieure du bâtiment. Je pense aussi à un bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a marqué pendant longtemps le paysage de Molière et dont certains habitants se souviennent, s'en rappellent encore puisqu'ils l'ont connu. Elle s'est effondrée il n'y a pas si longtemps, dans les années 1990. C'est la Tour du Guet, qui était vraiment une grande tour située tout en haut de la ville et dont il ne reste plus que la cloche. Voilà, on leur a fait parcourir comme ça le village à la découverte de ces bâtiments, l'église aussi, enfin bon voilà. Et le livret, on l'a réalisé en créant des petits jeux. En fait, on a divisé la classe en plusieurs groupes et chaque groupe avait un jeu à imaginer, à créer. Bon, c'était guidé, tout ça bien sûr, je l'ai guidé dans leur travail. Et en fait, c'est un peu comme un jeu de piste. En fait, le but de ce livret, c'est de découvrir un beau château qui est situé non loin de Molière et dont je tairai le nom parce qu'il faut découvrir où se situe ce château. Voilà. Et c'était une demande de la mairie aussi de faire du lien entre le bourg et ce château. Donc voilà, le but, c'est de trouver où se situe ce château, donc d'écrire le lieu. Et en fait, on va découvrir les différentes lettres du lieu à travers les énigmes du livret. Donc, par exemple, à la tour du Guet, dont il ne reste plus que la cloche, il va y avoir une première série d'énigmes où on va découvrir une des lettres du lieu où se situe le château.
Voilà. Alors, on peut le trouver quelque part, ce livret explorateur. Est-ce qu'on peut chacune des habitants se le procurer et faire les jeux, justement ?
En effet, on se le procure à la médiathèque de Molière, par exemple. Il est aussi à la mairie de Molière, dans certains des commerces de Molière, s'il en reste, et à l'office de tourisme de Caussade. Voilà, sur demande.
Et ils sont déclinables, un livre explorateur. Vous l'avez dit, c'est une édition du Pays d'Art et d'Histoire. Vous en avez fait d'autres, pas que à Molière.
Oui, on en a fait un à Réalville aussi, livret jeu. Ça, c'est des livrets qui se font en famille, en fait. Souvent, on met à partir de 7 ans parce qu'il faut savoir lire. Mais voilà, ça peut se faire aider de ses parents, ses grands-parents. Donc, il y en a un à Molière, un à Réalville et un sur le maquis d'Ornano, peut-être pour des enfants un peu plus grands à partir de CM1, CM2, parce que c'est des sujets qui tournent autour de la Seconde Guerre mondiale.
Livret explorateur, donc dans le cadre de ces projets pédagogiques à l'école de Molière qui ont couru sur 3 ans, qui courent encore, puisqu'on a parlé donc de ce livret il y a 2 ans. L'an dernier, c'était une balade sonore. Et si on parle de la cloche, on va l'entendre.
Oui, en effet, l'an dernier, donc, on a travaillé, au lieu de se baser sur le patrimoine bâti pur et dur, on est allé plutôt du côté de l'imaginaire cette fois, le patrimoine perçu par l'imaginaire. Donc, on a fait tout un projet autour des contes et légendes. On a commencé d'abord avec la classe, l'institutrice et directrice de l'école qui les a fait travailler sur le conte et légendes de manière générale, en partant de ce qu'ils connaissaient, quels contes ils connaissaient. On pense à Blanche-Neige, on pense à Pinocchio, etc. Et après, on a resserré un peu comme un entonnoir sur des contes et légendes plus locaux. Donc là, il y a une intervention avec l'intervenant en occitan, mais aussi avec des habitantes du village. Je pense à Jeannette Tatois et Gisèle Chéreau qui sont venues raconter des histoires locales sur Molière. Tout ce panel de légendes, voilà, on les a vraiment bercés là-dedans avant de faire des ateliers d'écriture avec une conteuse et animatrice d'ateliers d'écriture justement qui s'appelle Isabelle Jeannot. Et tout ça, ça a débouché sur une balade sonore qu'on a disposée sur une espèce de petite carte, un peu format carte postale finalement, qui s'appelle « Laissez-vous compter Molière ». Et au dos de cette carte, vous avez le plan avec des numéros qui correspondent aux différentes capsules sonores qui ont été enregistrées et qui ont été mises en voie par des habitants du village. Et cette petite carte avec les QR codes, en fait, à chaque fois qu'on peut flasher pour écouter les différentes histoires, on peut la trouver comme le livret explorateur dans les mêmes endroits, à la mairie de Molière, à la médiathèque, à l'office de tourisme de Caussade.
On va en écouter un extrait, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous teaser là ce que, puisque la balade sonore c'était l'an dernier, est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu qu'est-ce que vous faites cette année puisque le projet court sur 3 ans à l'école de Molière?
Oui, alors cette année-là, on termine sur la vie économique de manière générale à Molière. Donc un gros travail sur les commerces, mais aussi sur toutes les fermes alentour dans les hameaux de Molière, parce que Molière, finalement, ça se compose beaucoup de plein de petits hameaux et du bourg, en fait. C'est pas juste le centre-bourg. Donc c'est un aspect qu'on n'avait pas trop évoqué jusqu'à présent, mais qui est très très important à Molière parce que il y avait énormément de commerces. Rien que la rue de la mairie ou la route principale, c'était rempli. Il y avait un commerce tous les deux pas. Et on a encore des habitants comme Jacques et Jeannette qui témoignent encore de tous ces commerces qu'ils ont connus plus jeunes et qui ont pour la plupart disparu aujourd'hui. Il faut savoir aussi que Molière était rythmé par les marchés et les foires qu'il y avait plusieurs fois par moi. Voilà, donc on revient sur tout ça, on fait un travail avec l'école, toujours les CM1, CM2, on continue sur la cartographie, en fait. On va réaliser une cartographie des commerces et des fermes, tout ce qui fait la vie économique de Molière autrefois et aussi aujourd'hui, en allant, on l'espère, à la rencontre des commerçants actuels pour réaliser leur portrait. Il y a tout un travail sur la photographie qui est fait en parallèle aussi sur les photos anciennes qui sont nombreuses de Molière qui montrent tous ces commerces justement, qu'on retravaille avec une photographe professionnelle actuelle en les colorisant, par exemple des photos en noir et blanc qu'on colorise, on travaille sur le cyanotype avec ces photos anciennes et puis ensuite avec elle on va faire quelque chose sur le portrait des commerces et commerçants actuels ou des agriculteurs et fermes actuelles peut-être aussi l'étendre jusque là, à voir.
Chacune des écoles qui composent le territoire peut faire appel à vous pour initier des projets pédagogiques comme ça?
Oui, tout à fait. C'est une discussion à avoir, mais en effet, les écoles peuvent nous interpeller, pour qu'on intervienne. Après, c'est bien s'il y a aussi du lien avec un projet de réaménagement de la mairie, peut-être. Voilà.
Aude, avant qu'on écoute un extrait de la balade sonore qui a été composée l'an passé, toujours à l'école de Molière et à Molière par les habitants et écrit par les enfants, donc est-ce que vous pouvez un mot de la fin ?
Oui, alors je souhaiterais rendre hommage à Gisèle Chérault, en fait, qui a été adjointe à la mairie de Molière. Elle a été là notamment pour la balade sonore. Elle est venue auprès des écoles pour raconter des histoires du village qu'elle a entendues de ses parents et grands-parents. C'est elle aussi qui nous a mis en relation avec la troupe de théâtre locale et qui nous a dit bah, ça serait super que ça soit eux qui mettent en voit la balade sonore, en fait, et elle a été vraiment exceptionnelle et d'un grand appui dans ce projet, donc je tiens à lui rendre hommage. Ouais.
Jean, le charpentier du village, connaissait bien les arbres. Il savait lesquels couper à la vieille lune de décembre pour faire l'armature solide des maisons à pans de bois. Quand il ne réparait pas le pont du verre abîmé par une crue, il construisait sa propre maison dans les vieilles ruelles. Morgane, son amie, venait souvent lui apporter son déjeuner. Un jour, en travaillant à sa maison, il fit une erreur et une grosse poutre, une sablière, s'effondra lourdement au sol. Morgane faillit se faire écraser, mais heureusement, elle se sauva juste à temps. Touché par sa beauté et son courage, Jean se rendit compte qu'il était amoureux d'elle. Depuis cet incident, il travailla dur pour finir sa maison. Il voulait y vivre avec Morgane, car elle lui avait annoncé qu'elle l'aimait aussi. Ils vécurent heureux entre ces murs de torchis, tenus par des poutres et autres croix de Saint-André que Jean avait bâties avec soin.
Vous venez d'entendre un extrait de cette balade sonore réalisée à Molière dans le cadre du projet pédagogique du Pays d'art et d'histoire dont Aude Caverzan est chargée de programmation. Merci beaucoup Aude.
Merci Lisa.
Le mag du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h et en podcast sur le site cfmradio.fr.